Le MAPIC, le salon international de l'immobilier commercial. Du 30 novembre au 2 décembre 2021, au Palais des Festivals à Cannes, en partenariat avec TK Elevator sur Radio Immo.
Bonjour, si vous venez de nous rejoindre, nous sommes toujours en direct du Palais des Congrès et des Festivals de Cannes à l'occasion du MAPIC édition 2021 et c'est une très belle après-midi bien remplie qu'on va vous proposer sur Radio Immo à l'écoute des acteurs du retail et de l'immobilier commercial et nous allons maintenant tout de suite partir après déjeuner à l'écoute eh bien, des enseignes grâce à quelqu'un que vous connaissez bien maintenant qui a son rond de serviette chez Radio Immo. Bonjour Emmanuel Leroc.
Bonjour.
Vous êtes le délégué général de Procos. Procos qui représente les enseignes, qui est la fédération des enseignes. Comment ça se passe, ce MAPIC? Je vous ai vu bien occupé ce matin.
Oui, mais je dirais, le MAPIC, c'est toujours un moment spécial qui marque l'année. Dans des années normales, ça marque vraiment l'année du retailer, entre guillemets, et de la relation avec les bailleurs. Bon, là, on est dans un schéma évidemment particulier, un peu réduit en termes d'espace compte tenu de la situation. Bon, il faut aujourd'hui se satisfaire de pouvoir l'organiser déjà, puisque les sujets sanitaires ne nous ont pas toujours permis de le faire dans le passé. Et puis, c'est un moment particulier, puisque y a plusieurs salons, comme vous le savez, que les acteurs ont eu l'occasion de se réunir il y a quelques semaines. Donc forcément, ça complique un peu la donne. Mais je pense que malgré tout, c'est utile de marquer le temps. Parce qu'on ne sait plus trop aujourd'hui dans quel timing on vit. On a parfois du mal à se souvenir que le premier confinement, c'était déjà il y a un an et demi. Et du coup, c'est important de reprendre cette logique un peu d'habitude. Et dans ce secteur, ça fait partie des moments privilégiés. Et puis bon, Cannes, c'est toujours sympa de venir à Cannes. Moi qui vis à Paris, je suis quand même ravi de voir quelques degrés de plus. Après, oui, j'ai une journée particulièrement chargée parce que malheureusement, je ne peux rester qu'une journée à cause du début des assises du commerce qui vont se dérouler à partir de demain à Paris.
Alors, on va en parler dans quelques secondes. Avant, Emmanuel, une dernière question sur ce MAPIC. C'est important pour les enseignes d'être présentes sur ce genre de salon où elles sont nombreuses aujourd'hui sur ce MAPIC. De belles enseignes sont là.
Oui, alors tout le monde n'est pas là, on le savait, hein, puisque c'est comme ça. Et très clairement, il y a une partie des acteurs qui sont là. C'est important de l'être parce qu'en fait, c'est un métier de dialogue. En fait, la construction de la ville, la construction des espaces de commerce, ça ne passe que par le fait que des acteurs de l'immobilier, de la promotion immobilière et des acteurs exploitants, donc des commerçants, sont capables de se parler et de rechercher des solutions ensemble. Donc moi, je crois que quelle que soit la situation, et évidemment on en a connu de difficiles et tout n'est pas encore complètement fini, il faut se parler et je crois que des moments comme ça où on est un peu en dehors de chez l'un ou chez l'autre, des moments où on peut avoir quelques instants confidentialité probablement aussi, ça reste très important parce que ce métier-là, sans se parler, c'est obligatoirement décontentieux. Donc, parfois, certains ont considéré que c'était pas utile de venir. Moi, je pense que ces moments d'échange, aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit depuis un an et demi, il ne faut pas les manquer.
Et puisqu'on parle d'échange, vous l'évoquiez il y a quelques instants, le début des assises du commerce qui démarre demain à Paris. Alors, coïncidence ou pas, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est en plein MAPIC. Qu'est-ce que vous en attendez ?
Écoutez, oui, c'est un peu dommage que ce soit en plein MAPIC, évidemment. Qu'est-ce qu'on en attend ? On n'a pas choisi le calendrier. On est content que le gouvernement ait décidé de les organiser. Ça, c'est le premier sujet. Parce que, en ce qui concerne Procos, en tout cas, c'est quelque chose qu'on demande depuis 3 ans, au moment de la crise des Gilets jaunes et d'un certain nombre de choses pour partager en fait un diagnostic. Enfin, ce qui est très important, c'est vous savez que le commerce est extrêmement divers. Il y a de la grande distribution, il y a ce qu'on appelle les commerçants indépendants, et parfois petits commerçants, il n'y a pas de petits et de grands, mais c'est des commerçants indépendants, il y a des franchisés, il y a des réseaux organisés, il y a Amazon, il y a des pure players, etc. C'est un monde extrêmement divers, sa richesse passe par cette diversité, mais son dialogue est compliqué compte tenu de cette diversité. Et du coup, les interlocuteurs qu'on a en face de nous, le pouvoir public, a parfois un peu de mal à comprendre ce qui est, à dégager l'important du petit conflit permanent. Donc, ce qui est vraiment important, c'est de se projeter dans le temps. C'est-à-dire que c'est pas de regarder que le petit bout de la lorgnette. Enfin, pour moi, les assises n'ont pas vocation uniquement à parler de ce qu'on vient de vivre depuis un an et demi. Il a plutôt vocation à se projeter et à considérer le commerce de demain, de se dire en 2025, en 2030, vers quoi allons-nous ? Quel sera le poids des différents canaux de vente ? On sait très bien que le web aura pris un peu plus de place, etc. Et donc, comment faire pour que, sachant cela, parce qu'il n'y a pas de surprise, en fait, c'est toujours pareil, hein, quand on ne travaille pas sur des choses alors qu'on sait qu'elles vont arriver, c'est pas logique. Donc, en gros, comment on est capable, malgré notre diversité, justement, sur un certain nombre de sujets, il est évident qu'on ne va pas tout résoudre, et de toute façon, c'est un monde de concurrence, donc ça va rester la concurrence, mais justement faire en sorte que cette concurrence soit équitable, qu'elle se fasse sur les mêmes bases, que tout le monde respecte les mêmes règles, que très clairement on partage la même ambition, c'est qu'est-ce qu'on veut faire demain. En fait, on a un peu deux choix, hein, dans notre société, soit faire un commerce très impliqué dans les territoires, très contributeur de la vie de la ville et des citoyens, ou un commerce très logistique, en fait, hein, où on privilégie la fluidité de la logistique produit, la livraison à domicile, etc. Donc,
forcément l'un ou l'autre ?
Non, alors j'allais juste dire que forcément, enfin pour moi en tout cas, la vérité, enfin il n'y a pas de vérité, mais l'ambition doit se trouver entre les deux, parce que de toute façon, il y a un consommateur, et que parmi ces consommateurs, il y en a toujours qui choisiront l'un ou l'autre des modalités d'accès aux produits, et ça, c'est pas condamnable, hein. Il y a plein de choses qui sont très, très bonnes dans l'e-commerce. Après, il faut juste regarder comment le développement, enfin le surdéveloppement de telle ou telle chose génère la fragilisation de l'autre. C'est-à-dire qu'en gros, si on attache de l'importance à la présence de commerce dans une grande partie des territoires parce qu'on considère que c'est contributif de la vie des citoyens, alors il faut en tenir compte dans la manière dont on voit le commerce dans 20 ans. Sinon, ce serait uniquement une logique de laisser-faire, et en gros avec le risque que des acteurs trop gros, trop puissants tuent cette concurrence, justement, et où fasse que, justement, la notion de point de vente, de point de contact sur un certain nombre de territoires soit fragilisée. Ça, en tout cas, nous, c'est ce qu'on défend. Tout le monde n'est pas obligé de défendre ça, mais on le défend pour des raisons économiques de ce secteur, mais aussi pour des raisons sociétales, parce qu'on part du principe, et on l'a pu le vérifier de nombreuses fois, que quand vous avez des lieux, et pas uniquement des centres-villes, des territoires en manière générale qui subissent de la déprise, en fait, pour des raisons diverses, y compris des sujets économiques, et donc de la vacance commerciale. Cette vacance commerciale qui est visible tous les jours par un habitant, c'est vraiment constitutif de mal-être. Et donc, si on doit partir de ça, et là on est dans la politique, hein, au sens noble du terme, déjà, est-ce qu'on partage cette volonté, et donc cette crainte, enfin pas cette crainte, cette volonté de faire en sorte de créer les conditions pour que on ait aujourd'hui des acteurs qui se transforment assez vite pour qu'ils soient capables de résister, ou en tout cas de s'adapter assez vite à l'évolution d'un monde qui va vite. Donc c'est des notions d'investissement, de rapidité d'investissement et de transformation pour que, justement, par exemple, si on va prendre un exemple clair pour les auditeurs, c'est aujourd'hui les ventes de produits de détail sur Internet représentent 15% du marché. On peut considérer, on est à peu près tous d'accord, que entre 2025 et 2030, on sera entre 25 et 30%, et ça, c'est à peu près inéluctable. Ce qui veut dire, d'ailleurs, en passant, que 70% sera encore réalisé dans les magasins, parce que forcément, toujours la logique du verre à moitié vide, à moitié plein. Mais que ces 15% supplémentaires, il y a un peu deux possibilités. Soit ils sont avant tout captés par des grandes plateformes internationales, et forcément, ces 15%, ils seront partis des acteurs actuels, donc qui seront fragilisés. Soit les acteurs actuels sont capables de se transformer, et quelle que soit leur taille, assez vite, et de capter une partie majoritaire de ces 15% supplémentaires. Et pour moi, c'est ça l'enjeu. De manière à ce que ça ne sert à rien d'être focalisé sur Amazon en disant « c'est pas bien », etc. Le sujet, c'est comment on fait pour que des acteurs autres soient en capacité de faire leur business en ayant d'autres choix, en faisant autre chose, et soient suffisamment efficients pour justement faire en sorte que un acteur comme Amazon ou Alibaba, etc., n'aille pas trop vite et ne prenne pas une taille qui soit préjudiciable à l'avenir.
Est-ce que c'est réellement faisable ? Est-ce qu'un petit commerçant, restons sur cette expression, a les reins financièrement et logistiquement assez solides pour proposer un service tel que le font les géants ?
Alors, c'est compliqué de répondre à la question, mais en fait, je pense qu'il faut repartir de à quoi je sers quand je suis un commerçant. C'est-à-dire que, très clairement, si c'est toujours pareil. C'est-à-dire que le sujet de la transformation, c'est pas uniquement de savoir faire du digital. Ça en fait partie, et ça, je reconnais que c'est pas facile quand même, parce que c'est pas uniquement de l'argent, c'est du temps, c'est du temps passé, c'est de la compréhension du sujet. On peut pas sous-estimer la difficulté du sujet. Il y a après des sujets de mutualisation, enfin un certain nombre, et c'est pas simple. Mais en fait, le problème, c'est de pas se tromper de combat. C'est-à-dire que quand on est, quelle que soit son organisation, quand on est commerçant, on ne peut survivre que si on propose une offre qui répond à un besoin des clients, ou alors qu'on soit capable de créer ce besoin. Et ça peut être lié à la personnalisation, à la qualité de l'accueil qu'on fait, etc. Donc moi, je dis haut et fort que on ne sauvera pas un commerçant juste parce qu'il est digitalisé. S'il n'a pas fait l'effort en amont de s'adapter à la société, de vendre, enfin de proposer une offre qui soit adaptée aux besoins des clients, digitalisée ou pas, il mourra. Donc, c'est encore plus compliqué que votre question. C'est-à-dire que il y a d'abord mon métier de commerçant, à quoi je sers. Et en gros, toujours une question un peu qui fait mal au ventre, mais en gros, il faut toujours poser la question de dire si mon entreprise disparaît, à qui ça manque ? Si ça manque à personne, il faut se poser des questions. Ça c'est la première question. Et ensuite, parce qu'autrement on est obsédé par exemple par Amazon, c'est-à-dire que comment je pourrais survivre à Amazon, en faisant pas la même chose qu'Amazon. Si je dois faire exactement la même chose qu'Amazon, c'est-à-dire mettre à disposition très rapidement une gamme de produits très large avec une excellence logistique, la probabilité d'y arriver elle est quasiment infaisable. Donc en gros, mon métier c'est pas ça. Mon métier c'est de servir au mieux une clientèle souvent fidèle, plutôt proche de moi, et d'élargir ma zone de chalandise en étant bon sur Internet en plus, parce que ça me permet de vendre autrement auprès d'une population, y compris en la livrant à domicile. Donc il ne faut pas dire que les sujets sont simples, parce que ce n'est pas vrai, mais en réalité, ce n'est pas non plus la fin du monde, quoi. C'est-à-dire que la fin du monde, elle n'existe que si on se dit c'est foutu. Donc si on se dit c'est foutu, il faut un peu de méthode couée quand même, hein, pour de toute manière survivre. Mais je crois qu'on est dans une société qui, la plupart des secteurs sont hyper challengés. Enfin, vous, quand Radio Immo a été créé, je m'en souviens très bien, vous veniez dans un monde qui n'était pas du tout celui-là. Et très clairement, si les gens qui étaient là avant ne bougent pas, ils n'ont aucune raison, ils n'ont aucune possibilité de survie. C'est exactement la même chose. Donc on est dans le même type de choses. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas, évidemment, des disparitions. Ça, ce serait mentir. Mais comment on fait pour que, notamment dans tous les territoires, les conditions économiques de dynamisation du commerce soient réunies? Ça veut dire s'occuper évidemment des clients qui puissent accéder. Enfin, on revient toujours au même sujet, mais c'est un peu trivial, mais c'est quand même la basique du commerce. C'est-à-dire, si c'est trop compliqué aujourd'hui pour un client de se rendre dans un lieu, il n'y va pas. C'est tout simple. C'est-à-dire qu'il reste dans son fauteuil avec son smartphone et puis il se fait livrer le produit. Même chose si les conditions d'exploitation servent notamment livrer le magasin, ou bien payer son loyer, est complètement déconnant par rapport à la réalité du modèle économique du commerçant. Le commerçant, au mieux, il va ailleurs, il se transfère, au pire, il ferme. Donc ça, c'est pour ça que c'est complexe, parce que ça ne dépend pas non plus que des commerçants. C'est-à-dire que les commerçants doivent faire leur travail et l'écosystème doit faire son travail. Et donc c'est les élus locaux, les élus nationaux pour créer des conditions, les sujets fiscaux, les bailleurs. Donc c'est pour ça aussi que c'est important d'être là au MAPIC, parce qu'il y a un peu tout le monde et on peut échanger là-dessus.
Vous parlez des élus locaux, et j'ai été un peu surprise il y a quelques jours sur les réseaux sociaux, en tombant sur le poste d'un maire qui, je crois, est normand, et qui criait à la mort des gros commerces parce qu'ils tuaient les petits commerces de quartier. On sait aujourd'hui que l'un n'oppose pas l'autre, ça, je pense qu'on sera tous d'accord là-dessus. Est-ce que c'est représentatif du fait qu'il y a encore de la pédagogie à faire sur ce sujet ?
Énorme. Je pense que, en fait, quand on ne sait pas quoi faire, en plus nous les Français on adore ça, le mieux c'est de créer un combat en fait. Et donc on n'a pas de solution, mais on a un ennemi. Et quand on a un ennemi, déjà on est à moitié rassuré. Ça n'apporte aucune solution, mais on a un ennemi. En réalité, bon, je ne condamne pas la prise de parole de ce maire parce que je ne connais pas le contexte, mais c'est vrai que vous avez raison, c'est pas hier que les grands commerçants ont été créés, donc il y a eu effectivement des disparitions de commerçants, on peut pas le nier. Il y a toujours eu des disparitions de commerçants. C'est-à-dire qu'il faut... Enfin, je pense que tout le monde, y compris les élus, doivent toujours se référer à l'histoire. C'est-à-dire qu'il y a eu... Il y a eu les grands magasins, Félix Potin, ensuite il y a eu les hypermarchés, il y a eu etc., etc. Des phases comme ça, il y en a toujours eu. Et il y a toujours eu une innovation qui a fragilisé quelque chose qui existait avant, soit parce que cet existant s'est embourgeoisé, soit parce que cet existant n'a pas réussi à évoluer. Donc ça, c'est déjà un sujet. C'est-à-dire qu'on ne va pas arrêter la vie, quoi. On ne peut pas cristalliser le truc et dire, voilà, on va tout arrêter et ça va bien se passer pour ceux qui existent. Ça n'arrivera jamais, donc... Même dans un rêve absolu, et le grand soir du sujet n'est pas arrivé. Donc ça, c'est un premier sujet. Le deuxième sujet, responsables... Enfin, les élus locaux sont extrêmement responsables du sujet. C'est-à-dire qu'en gros, on ne peut pas se focaliser sur le commerce. Qu'est-ce qui fait que les gens vont commercer, acheter dans un autre, parce que c'est le plus proche de chez eux? Et qu'est-ce qui s'est passé, en fait, dans la société française depuis 30 ans, 40 ans? C'est qu'on a construit le logement, en fait, c'est un logement d'habitat individuel avec de l'étalement urbain. Donc le premier responsable, alors c'est... une réponse un peu agressive à la question, mais le premier responsable, et donc la prise de conscience qui est extrêmement importante, c'est que vous n'avez pas de commerce sans habitants. Donc quand vous n'avez plus de commerce dans un centre-ville, d'habitants dans un centre-ville, vous n'aurez plus de commerce. Dire le contraire, c'est-à-dire je vais créer des commerces et après il y aura des habitants, n'arrivera jamais, puisque les gens habitent déjà ailleurs. Donc c'est déjà le premier sujet. Et je pense que pour le coup, là, il y a eu une vraie pédagogie qui a été faite depuis quelques années, notamment en préparation d'Action Cœur de Ville, parce qu'après on peut dire est-ce que Action Cœur de Ville fonctionne ou pas, mais en tout cas c'était lié à un vrai diagnostic qui était de dire, si on veut redynamiser des cœurs de ville, la question du commerce n'est pas la seule question. La première question qui doit être tranchée, c'est celle de l'habitat. Déjà, comment je recrée des gens qui habitent, et forcément, quand vous avez des habitants, vous avez du commerce de proximité, c'est le premier sujet, parce que sinon, il faut que les gens viennent de l'extérieur. Et ces gens de l'extérieur, déjà, on leur complique la vie de plus en plus, parce qu'un certain nombre d'élus n'a pas compris non plus que l'accessibilité est un sujet vital pour le fonctionnement de l'activité économique, que cette accessibilité soit une accessibilité client, des problématiques de parking, etc., des débats qui sont encore pas tranchés, alors que, en réalité, dans la grande partie des villes françaises, les gens se déplacent en voiture et ils habitent en périphérie. Donc comment voulez-vous qu'ils viennent dans un centre-ville? Et ensuite, la problématique globale de travail sur l'attractivité générale du centre-ville, c'est-à-dire des problématiques de services, des problématiques de patrimoine, des problématiques d'action commune. Et ça marche plutôt bien dans les villes qui s'en occupent. Après, on peut simplifier le débat uniquement aux conséquences de l'ouverture d'un supermarché avec une galerie marchande à l'extérieur, qui est un vrai sujet, parce qu'évidemment, quand vous aviez 10 magasins et que 5 sont passés dans la galerie extérieure, on ne peut pas dire que ça ne fasse pas de dégâts, ça en fait forcément. Mais c'est notre situation de départ. Et si on la nie, ça ne sert à rien, en fait. Il faut repartir de la... C'est pour ça que je reviens à nos assises. Si on ne se met pas d'accord sur un diagnostic et qu'on continue de dire c'est de la faute de la périphérie, c'est de la faute de Amazon, c'est de la faute de je ne sais pas quoi, on fera des assises, on sera content de cette vue. Mais en réalité, ça ne sert à rien du tout, quoi. Et pour nous... Pour nous, Procos, je veux dire, et on espère que ce sera le cas côté gouvernemental, on a, au-delà de s'accorder sur quelques mesures, si on pouvait le faire, mais bon, le temps ne nous permet pas facilement de le faire, il faut vraiment que ces assises servent, soit un point de départ, servent à considérer le secteur du commerce comme un secteur essentiel pour la transformation de la société, et même avant sa transformation, pour la vie des gens dans les territoires. Et donc à partir de là, si c'est le cas, qu'on constitue des moyens de travail permanents pour protéger cette matière qui est fragile, parce qu'en fait, c'est pas simple. Aujourd'hui, je vais faire un parallèle, mais Vous savez, alors vous êtes jeune, vous n'avez pas ça en tête, mais en tout cas, c'est sûr que dans les années 70-80, 90, on a laissé l'industrie partir en disant il y a des pays de production moins chers, et donc du coup, il y a eu la délocalisation de la France, de l'industrie. Aujourd'hui, on dit, qu'est-ce qu'on a fait, il faut réindustrialiser. Et on se dit, le commerce, ça ne peut pas arriver. Mais en fait, le commerce, aujourd'hui, c'est une matière délocalisable. Avant, il ne l'était pas. Aujourd'hui, avec les réseaux, avec Internet, et j'allais dire même les réseaux sociaux, c'est-à-dire que les autres canaux de vente, hein, et donc la présence aussi de gros acteurs internationaux que peuvent être Amazon, Alibaba, Facebook, Google, etc. On peut très bien vendre des produits, on va dire en fait dans l'autre sens, des consommateurs français peuvent très bien, sans aucune difficulté, à partir de chez eux, commander un produit qui vient d'ailleurs. Et ils n'ont pas obligatoirement besoin de se déplacer en bas de leur rue. Donc la matière au commerce est devenue délocalisable. Donc si on n'en fait pas attention, si on n'en prend pas conscience et qu'on se dit bah oui, mais les commerçants, ils sont jamais contents, et de toute façon, ils ont toujours grogné, ils se sont toujours battus, ils ont toujours réussi à se réorganiser, et un a pris la succession de l'autre, etc. Mais on va se retourner un jour en se disant, mais comment ça se fait qu'on n'a pas vu le coup venir ? Il y a un certain nombre de territoires où il n'y a plus de commerce. Et les clients, ils auront toujours des produits, mais ils viendront d'un entrepôt en Belgique ou même en France. Et c'est ça l'enjeu global sociétal, au-delà des problématiques de business, parce que à la limite, ça ne changera pas la consommation. La consommation sera aussi importante, sauf que les canaux ne seront pas les mêmes et les externalités de chacun des sujets ne seront pas les mêmes.
Merci Emmanuel Leroc pour toute cette analyse. Si vous le voulez bien, on fera un petit bilan de ces assises du commerce sur Radio Immo. On verra ce qu'il en est sorti. Je compte sur vous. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes le délégué général de Procos.
Merci beaucoup.
Le MAPIC, le salon international de l'immobilier commercial. Du 30 novembre au 2 décembre 2021 au Palais des Festivals à Cannes, en partenariat avec TK Elevator sur Radio Immo.